Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau format en collaboration avec Paris Fashion Shops. Paris Fashion Shop, c'est la marketplace dédiée aux professionnels de la mode. Cet épisode est réalisé en co-animation avec son fondateur, Jackie. Je suis Laetitia et je suis accompagnée d'Adrien.
Bonjour.
Et de Jackie.
Bonjour Laetitia, bonjour Adrien, bonjour à tous.
Cette série a pour thème la digitalisation des boutiques de prêt-à-porter et s'adresse à tous ceux qui ont une boutique et souhaitent prendre le virage de la vente en ligne. Cette première saison est composée de 3 épisodes et vous écoutez le premier épisode. Laetitia.
Jackie.
Adrien.
Prêt.
Synchronisation des montres.
Jackie, pourquoi est-ce que là, maintenant, on parle de la digitalisation des boutiques?
Alors, au fait, Laetitia, la digitalisation ne date pas que de là. La digitalisation date depuis 1994 où j'ai lancé ma première boîte.
Alors justement, raconte-nous comment est-ce que tu as commencé en 1994 et où est-ce qu'on en était à cette époque-là?
Comment tu es arrivé à Paris Fashion Shops?
Alors, en 1994, c'était le lancement de ma première société de fabrication de maroquinerie à Paris. Et c'est là où je dirais que a commencé aussi le WWW. Et qu'on se disait, OK, en tant que fabricant parisien, comment on peut déployer aussi sur le digital? Mais à l'époque, avec les modems 256, rien à faire, tu vois. Mon premier site internet a commencé en 1999. Et on va dire que l'idée a germé depuis cette période-là. L'idée a germé depuis plus de 20 ans. Et c'est qu'aujourd'hui, il y a 4 ans, qu'on a lancé Paris Fashion Shops, le 15 juin 2016 précisément, et qu'on a commencé à digitaliser tout un process de métier d'approvisionnement pour les professionnels de la mode.
Et ben d'ailleurs, Jackie, c'est très bien parce qu'on va rencontrer justement dans un instant Franck, qui a une expérience très intéressante parce qu'il gère plusieurs boutiques dans le Nord et on l'a rencontré et on lui a posé pas mal de questions.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Nous sommes dans le podcast Le Café de l'e-commerce en direct de Paris Fashion Shops. Aujourd'hui, nous accueillons Franck Ouette. Franck, bonjour.
Bonjour Laetitia.
Bonjour Franck.
Bonjour Adrien.
Merci de nous avoir rejoints. Alors, raconte-nous un petit peu ce que tu es.
Les boutiques avec lesquelles tu travailles.
Alors, moi, je suis commerçant depuis... je travaille avec mon épouse, qui est commerçant depuis 30 ans. Moi, je suis arrivé dans les boutiques il y a 20 ans environ. Et on a développé ensemble plusieurs points de boutiques physiques dans les Hauts-de-France. Donc, on s'est positionné sur des produits moyens haut de gamme, avec une clientèle ciblée CSP+.
Aujourd'hui, tu as combien de boutiques? Tu as lancé donc il y a 20 ans?
Alors, actuellement, j'ai 4 boutiques.
D'accord.
J'ai 4 boutiques. On en avait ouvert une autre sur l'île qu'on a abandonnée pour diverses raisons, pour des problèmes de loyer, etc. Donc, mais là, maintenant, on s'est vraiment concentré sur les chefs-lieux régionaux, des villes intermédiaires, avec des zones de chalandise assez importantes, ce qui nous permet aujourd'hui d'avoir des boutiques assez grandes par rapport à la moyenne des boutiques traditionnelles et pérennes depuis plus de 20 ans maintenant.
Et tu vends quel type de produit?
Je vends du produit du prêt-à-porter féminin, haut de gamme, moyen haut de gamme, donc des marques italiennes, des marques allemandes, des marques françaises bien sûr, et des marques espagnoles.
Alors, avant de parler de digitalisation, est-ce que tu peux peut-être nous donner un rapide historique sur l'ouverture de ces 4 boutiques? Est-ce que ça, la première a mis beaucoup de temps avant d'ouvrir la deuxième, ou est-ce que tu as vu une accélération ces dernières années?
Accélération ces dernières années, non. Mais il y a eu de bonnes années, en particulier les années 80-90, qui ont été des années de croissance pour le prêt-à-porter, dans les boutiques physiques, bien évidemment. C'était des croissances à 2 chiffres régulières. On ouvrait des mètres carrés, on ouvrait... pas forcément des boutiques, mais on agrandissait les boutiques. C'était continu pendant 15 années. Avant, un arrêt brutal aux alentours des années 2010-2012, où là, les volumes ont sacrément baissé d'un coup. Sur une année entre 2012 et 2013, j'ai perdu 15% de mon chiffre d'affaires subitement. Mais 2008, ça a été. 2009, ça a été. 2010, c'était très bien.
C'est arrivé à retardement,
et puis, c'est arrivé à retardement. Ça arrivait à retardement parce qu'on avait une clientèle assez fidèle, etc. Puis subitement, il y a eu un revirement de situation, ce qui nous a obligés pendant les 10 années qui ont suivi à nous remettre beaucoup en question.
Et à ce moment-là, tu avais combien de boutiques?
À ce moment-là, j'ai toujours eu 4 boutiques,
d'accord,
en fait.
Okay. Oui. Et donc là, il y a eu la crise, donc beaucoup moins de ventes. Et tu as dû adapter quelque chose? Tu as dû faire changer quelque chose?
J'ai dû adapter, c'est-à-dire que j'avais beaucoup investi juste avant. Et j'avais agrandi une boutique, j'en avais ouverte une autre, j'en avais vendu une autre, comme je l'ai dit précédemment, j'avais embauché. Et on a eu un effet ciseau, quoi. Je veux dire, je me suis retrouvé avec trop de personnel, trop de stock, parce que je fais partie de ces indépendants qui ont 50% de leur chiffre d'affaires en stock. Donc, les achats étaient faits en fonction d'une progression souhaitée, et on s'est retrouvé avec un effet inverse. Donc, cette période a été quand même assez délicate, ouais.
Et à ce moment-là, il n'y avait pas du tout de sujet de digitalisation?
Ah si. Ah si, si, parce que je faisais tout en même temps, au fond. Et il y a 12 ans, je me suis lancé dans un site marchand. Intellectuellement, ça m'intéressait. Je me sentais pas forcément prêt pour la chose, mais je voulais m'y intéresser vraiment, parce que je sentais qu'il y avait quelque chose à faire. Et je me suis lancé, enfin, j'ai tenté de trouver un prestataire. Alors, le gros problème de ces années-là, parce qu'il y a 12 ans, c'était un peu le Far West quand même, hein, pour les indépendants, 100 ans, de trouver le prestataire bien dimensionné. Et j'avais des propositions de prestataires qui étaient totalement surdimensionnées.
Quand tu parles de prestataire, il s'agit d'un prestataire pour construire le site,
pour construire le site
logistique, ok, pour t'accompagner et construire et mettre les produits dans le site, c'est ça?
Exactement.
Okay.
Donc j'avais affaire à des prestataires qui étaient dimensionnés pour des grosses PME ou des grosses entreprises. C'était normal, ils se lançaient, il fallait qu'ils trouvent le gros potentiel. Mais clairement, c'était pas pour moi. C'était beaucoup trop cher et beaucoup trop gros, trop lourd, enfin bon bref. En parallèle de ça, il y avait pas mal de développeurs qui se lançaient dans ce genre de produits. Et là, c'était sous-dimensionné. Moi, je fais quand même plusieurs dizaines de milliers de produits par an. Donc, il me fallait quand même une structure. Et surtout, je voulais que cette boutique digitale ait une image de marque à peu près équivalente à mes boutiques physiques. Donc, il fallait pas que je sois amateur d'un côté et pro, parce que je me considère quand même un petit peu comme un professionnel.
Tu avais deux problématiques. Ta première problématique, c'était une problématique technique, donc trouver le bon prestataire avec qui puisse s'adapter à ta structure de commerçant de proximité.
Oui.
Et puis ensuite, ton image de marque, laquelle tu avais déjà bien travaillé en boutique, mais il fallait qu'elle corresponde aussi sur le digital. Et là, effectivement, à cette époque, dans les années 2010, je pense qu'on devait demander un billet énorme parce que du coup, c'était compliqué à ce moment-là de rejoindre les deux, j'imagine.
Et en fait, je me suis aperçu avec du recul que j'aurais dû attendre 3-4 ans parce que le produit que je voulais, moi, par rapport à ma taille, qui était une taille intermédiaire, n'existait pas.
Quand tu parles de produit, c'est un site internet prêt à déployer pour ta taille de structure.
Oui, j'ai fini par trouver un prestataire, on va dire intermédiaire.
D'accord.
Que je sentais potentiellement intéressant. Je sentais qu'il avait du potentiel. D'ailleurs, il a du potentiel parce qu'ils sont plus de 700 maintenant, actuellement. Donc, en 10 ans, ils ont bien progressé. Donc, vraiment, je crois avoir trouvé à l'époque quelqu'un, et en plus, lui, il m'aime bien parce qu'il considère que je suis une zone test. Il n'est pas dédié au prêt-à-porter. Il se dit, tiens, je vais avoir enfin une ouverture sur le prêt-à-porter. Allons-y. J'ai donc servi de zone test. Alors, la zone test, c'est bien. C'est bien parce que le personnel est à l'écoute. C'est que le patron a décidé que telle ou telle boutique serait une zone test. Donc, j'étais à l'écoute. Je bénéficiais d'une écoute intéressante. Les développeurs m'écoutaient. La zone test, c'est un inconvénient, c'est que tout est à développer. Et je me suis retrouvé avec des demandes qui peuvent paraître complètement ridicules maintenant. Par exemple, pour les photos. Moi, je voulais 3 ou 4 photos. À l'époque, il n'y en avait que 2 disponibles, en tout cas pour ce développeur-là. Donc, 3e photo, développement. On discute du développement, oui, je vous en parle, 2 jours, 3 jours, 1 semaine. 4e photo, 1 semaine de plus. Enfin, des tas de choses comme ça, vous voyez. Alors, ça peut paraître vraiment ridicule maintenant quand on voit la facilité avec laquelle on développe des sites internet. Et on en reparlera de ce que j'ai fait dernièrement. Mais à l'époque, c'était une réalité. Et ça devenait très chronophage, extrêmement chronophage pour un indépendant comme moi. En parallèle de ça, je vous le dis, j'ouvrais une autre boutique physique. Donc, ma préférence, bien évidemment, allait du côté de la physique.
Et justement, à ce moment-là où tu développes cette boutique, c'est quoi l'effort de gestion de cette boutique? Est-ce que tu es tout seul et c'est toi qui le fais? Ou est-ce que tu as des personnes? Ou est-ce que c'est côté prestataire, ils gèrent ta boutique pour toi?
Non, j'ai rien. C'est-à-dire qu'ils me créent une boîte dans laquelle je dois tout inscrire, que ce soit les photos, que ce soit...
C'est
et je gère ça avec mon épouse, oui.
Okay.
Et donc, on fait tout. Je fais les photos, mon épouse fait le mannequin. Enfin, vraiment, c'est un petit peu...
Tout en sachant qu'à côté, tu as ta gestion du stock des magasins physiques à gérer et aussi... envisager la gestion du stock.
Alors, à l'époque, il n'y avait pas de gestion connectée sur mes stocks. Et donc, j'avais décidé de me focaliser, parce qu'on pouvait encore à l'époque d'ailleurs, de me focaliser sur peu de produits et des produits leaders. Et je démarre assez rapidement avec une marque connue qui a du succès dans la maroquinerie. Et je décide de vendre en première page un sac best-seller de l'époque que je présente à moins 10%. Donc, c'est un succès immédiat parce que j'en vends quasiment un tous les jours. Enfin, en tout cas, pour moi, c'est un succès.
Et puis, à l'époque, le prix, c'était un argument. Ça l'est toujours aujourd'hui. Mais à l'époque, dans la tête des consommateurs, c'est tu vas en ligne, tu le paieras moins cher et c'est le prix, c'est le critère numéro un.
Ben, c'était l'avantage économique du web. Mmh. Web égale remise. C'était un peu l'époque qui voulait ça. Donc, j'en vends beaucoup. J'en vends beaucoup jusqu'au moment où je reçois un coup de téléphone du directeur commercial de cette société qui me dit, qui me demande si les moins 10%, en l'occurrence, c'est moi. J'ai dit oui, c'est moi qui fais cette réduction. Il me dit tu arrêtes. Il dit c'est juste pas possible, je viens d'avoir une plainte de mon franchisé de Saint-Raphaël. Une de ses clientes lui affirme avoir eu une commande à moins 10. Il dit c'est juste pas possible, je leur interdis de faire la moindre remise sur ce genre de produit. Donc tu arrêtes. Tu arrêtes de faire ces remises ou tu retires le produit. Moi, je dis non, je vais arrêter de faire la remise, je continue de le produit et je me retrouve à ne plus rien vendre. Bien évidemment, parce que l'avantage économique avait disparu. Donc ça, ça m'a déjà un petit peu...
Refroidi,
on va dire, parce que, comme le disait justement le directeur commercial, tu fais ce que tu veux dans tes boutiques. Chez toi, tu fais ce que tu veux. Si tu veux le réduire à 20%, de 20%, tu le fais. Il n'y a aucun souci avec ça. Par contre... Au niveau numérique, tu tombes dans la politique commerciale nationale des succursales et des franchisés. Donc, je suis désolé de te dire que tu vas suivre la politique commerciale et donc ça sera 0% de remise. Donc voilà, c'était un peu paradoxal. J'avais pas du tout appréhendé ce genre de problème. Et donc, ne pas pouvoir sélectionner mes produits, avoir quelques produits en vente avec un avantage économique qui était une réduction, ne pas pouvoir le faire, ça devenait très embêtant.
Comment, à l'époque, tu faisais pour amener du monde sur ton site internet ?
Très facile, en fait. Je me suis remémoré cette période. C'était très facile d'être référencé. J'avais pas mal de petites marques hollandaises, allemandes, espagnoles. Et très vite, on était en première page.
Naturellement, sans payer.
Mais oui,
en
mais
plus.
Naturellement. Naturellement.
C'est vraiment une autre époque.
C'est une autre époque. Et quand on voit le ticket, enfin, ce que ça coûte actuellement, moi, j'ai en tête une marque hollandaise. J'ai tout de suite, mais alors très, très vite, au bout d'un mois, été en première page, quoi. Mais sans problème. Et ça se connectait sur le site par rapport à cette marque. C'était impressionnant, ouais. Et j'étais très vite, je parlais de la du sac best-seller tout à l'heure, pour une marque très connue, bah très vite, je me retrouvais en première page. Donc, c'est étonnant quand même.
Donc, tu avais des produits comme ça qui apparaissaient et qui t'amenaient du trafic continu.
Ouais.
Et puis ensuite, l'opportunité de vendre des ventes croisées, donc pouvoir peut-être vendre d'autres produits. Tu faisais quelque chose justement avec les clients, une fois qu'ils achètent le produit phare, par exemple, 2 mois plus tard, 6 mois plus tard, tu les relançais ou tu réactivais pas trop à l'époque?
Je réactivais pas trop à l'époque.
Ok, mais ça, c'était une autre maturité, une autre
époque. Oui, une autre maturité, ça aurait été une année N plus 2 ou quelque chose comme ça. Oui.
Ouais. Et qu'est-ce qui a fait que tu as décidé d'arrêter cette boutique?
C'était chronophage, quoi. Je veux dire, tout à fait honnêtement, j'avais quand même l'impression d'être amateur sur le sujet, alors que j'étais pro sur l'autre sujet.
T'étais pas fier du site ?
J'étais pas fier du site, j'étais assez fier de moi, tout compte fait. Mais je trouvais que j'ai quand même l'impression d'être assez pro, je le répète, je peux faire une métaphore foot. J'étais un peu en Ligue 1 dans le physique, j'étais un peu en catégorie amateur
enfin,
franchement. Ouais. En Ligue 2, non. Maintenant, je suis en Ligue 2, mais on en reparlera tout à l'heure. Non, plutôt dans les, dans les catégories amateurs.
Est-ce que tu avais l'impression que c'était pas le même métier, en fait, de détaillant que d'être en physique et en ligne?
Je trouve que c'était aussi passionnant que couvrir une boutique physique. À mon sens, c'était la même chose. Par contre, on manquait de temps. On manquait de temps. Et c'est clair
rien
que...
Rien n'était automatisé à l'époque, là où...
Rien,
où
rien,
aujourd'hui,
rien.
Aujourd'hui, tout est automatisé.
Tout a changé. Tout est facilité. Oui.
Il y a quelques semaines, on a vécu le coronavirus et je crois que ça a été le déclencheur de quelque chose de ton côté.
Bah, c'était l'opportunité. Les 10 ans qui ont passé, je n'ai pas arrêté de penser au digital. J'ai bien évidemment commencé par les réseaux sociaux.
Okay.
Je communique régulièrement par email, par SMS, etc. Ça,
pour les faire venir dans ta boutique
oui,
physique.
Oui, bien sûr. Ça, okay. On a pris cette habitude. Et c'est vrai que m'était resté toujours un peu un point de frustration par rapport à l'échec d'il y a 12 ans. Donc, c'est vrai qu'avec le confinement, on s'est levé un matin, on s'est dit, ben, il faut ouvrir une boutique digitale, quoi. Il faut recommencer. Et on a eu la chance d'avoir un prestataire qui a eu la même idée que nous. Il s'est dit, tiens, notre prestataire de logiciel de caisse s'est dit, bon, je vais libérer les droits d'entrée. J'offre les droits d'entrée pendant une semaine pour essayer de booster le digital. Et il a bien fait parce qu'on s'est rué sur l'occasion et on a travaillé 2 mois sur le sujet. Et pendant 2 mois, on a travaillé en découvrant ce qu'offrait le digital maintenant 12 ans après.
Là, t'as vu le gap.
Mais alors, c'est incroyable.
Une claque que vous prendre.
J'ai eu une claque, oui.
C'est pas 4 photos, c'est 400 photos si tu veux le mettre.
C'est 400 photos si tu veux. Tu veux mes photos alors qu'avant, je devais... C'est tout juste si on me les donnait, les photos, parce qu'on voulait pas galvauder l'image, etc. Là, j'ai tout. J'ai découvert des petites startups hollandaises comme Fashion Cloud qui donnent à disposition, avec l'aval des marques, toute la base de données des marques. Donc, j'ai toutes les photos. J'ai tout le descriptif produit qu'on devait faire auparavant, etc.
Manuellement.
J'ai ma connexion au stock. J'ai les paiements CB qui sont garantis, parce que je ne vous ai pas parlé des problèmes de paiement CB de l'époque. C'était incroyable. Là, tout est garanti. Non, mais franchement, il n'y a plus qu'à, quoi.
En 2 mois, tu es passé de rien du tout à j'ai une boutique en ligne où je vends mes produits.
Oui.
Combien de produits tu vends en ligne, ou plutôt quelle proportion ça prend des produits que tu as en stock?
J'ai à peu près 500 produits en ligne.
OK. Du coup, tu as lancé ça il y a quelques semaines, tu commences à voir des résultats, tu es plus optimiste qu'il y a 10 ans, il y a 12 ans, ou est-ce qu'on se voit dans 6 mois et tu auras fermé la boutique?
Non, je ne vais pas la fermer celle-là, j'y crois très fortement. Alors je vais être paradoxal, mon objectif c'est pas de vendre en ligne.
Voilà. C'est de ramener la cliente en boutique.
Exactement, c'est de créer une espèce de ceinture numérique autour de mes boutiques physiques et d'accélérer les flux. En fait, actuellement, j'ai 13 000 clients actifs et je pars du principe que je n'ai pas 100% de part de marché chez tous les clients. Donc, je compte sur cette vitrine pour électrifier cette clientèle, et en particulier les 3 000 qui nous sont venus, je dirais que... 2 fois les 3 dernières saisons. Et je dois dire que les premières réactions sont plutôt positives. C'est-à-dire que moi, quand j'envoie un mail, j'ai mon prestataire qui me dit « Si tu as un retour de 18%, c'est très bien. » Généralement, moi, j'ai un retour de 25-30% parce que j'ai une clientèle assez fidèle.
Quand tu parles de taux de retour, simplement pour être certain de la définition, c'est le taux de clic dans l'email.
Oui, c'est le taux de
clic.
Oui, okay. Voilà. Là, pour le lancement du site qui a été lancé une semaine avant le déconfinement, le premier, celui du 11 mai, j'ai eu à peu près 60% de clics. Et 60% de clics de temps long, c'est-à-dire de plus de 10 secondes, ça veut dire que la clientèle et l'ex-clientèle a vraiment feuilleté ce catalogue. Et donc, dès la réouverture, on a eu pléthore d'appels dans les boutiques, pour savoir si tel ou tel produit était disponible dans telle ou telle boutique, etc. À tel point que c'est devenu, j'irais, un instrument de vente. Maintenant, les vendeuses ont l'onglet du site web pour pouvoir répondre aux différents appels téléphoniques.
Tu as 4 boutiques, un site. Est-ce qu'il y a une boutique qui s'occupe de préparer les commandes et de les envoyer? Ou est-ce que c'est un bureau derrière? Ou c'est splitté, c'est divisé sur les 4?
Dans un site, on a le stock à l'arrière. Effectivement, c'est cette boutique qui s'occupe de mettre en place les envois ou les transferts éventuels.
Alors justement, moi, je vais aborder la question des stocks avec toi. On vient d'aborder la crise du Covid. Comment ça s'est passé pour toi? Tu t'es retrouvé avec un stock important, j'entends bien, dans les boutiques, et tu t'es dit je vais les couler sur mon site marchand, ou est-ce que là, comme tu viens de le dire, les clients t'appelaient et demandaient mais est-ce que vous avez ça en boutique? Toi, oui, non, j'attends le réassort. Comment ça se passe, quoi?
J'ai beaucoup de stock. J'ai dit tout à l'heure que j'avais à peu près 50% de mon chiffre d'affaires qui était en stock. Ça, c'est ma base. C'est la base de plusieurs dizaines de milliers d'indépendants comme moi. Je me suis retrouvé avec beaucoup de stocks.
C'est une stratégie, c'est vraiment une question un peu comme ça, en laquelle tu crois, ou demain tu changerais de stratégie?
Je vais changer de stratégie.
Voilà, moins de stocks.
Moins de stocks, je vais baisser ma commande initiale et je vais plus travailler en flux tendu avec des solutions comme Paris Fashion Shops, etc. Oui.
D'accord.
Bien évidemment. Mais ça ne se fait pas comme ça. J'ai quand même des contrats moraux, je dirais, et puis des habitudes aussi.
Oui, il y a des habitudes avec des grossistes.
Et ça se fait en plusieurs années, mais c'est la tendance, bien évidemment. Donc actuellement, pour parler du stock, oui, on a beaucoup de stock, bien évidemment. On a 2 mois, les deux plus gros mois de l'année, pour nous, c'est mars-avril. Donc c'est plutôt mal tombé. Donc mars-avril, la seule variable d'ajustement, enfin j'ai 2 variables d'ajustement, c'est de bien négocier avec les fournisseurs des retours de marchandises. Ça, c'est la seule solution, parce que les ventes d'ici fin juillet ne rattraperont pas le retard pris, bien évidemment. Et je croise les doigts aussi pour le retour de la clientèle, qui a l'air quand même beaucoup plus dynamique qu'on ne le croyait.
Tu dirais qu'aujourd'hui, tu peux mesurer peut-être pas de manière précise, mais il y a eu un réel impact positif sur le retour, et on va le voir dans les prochaines semaines, en magasin grâce à ce site internet ou grâce à, à ces relances par mail. D'ailleurs, même sans site, tu aurais pu envoyer un email à tout le monde pour dire de venir en boutique, mais là,
non, moi, le site a vraiment créé l'émulation. Ouais. Il y a vraiment eu un plus, il y a eu une espèce d'euphorie. Et puis, de toute façon, je crois que durant ces deux mois, les habitudes numériques ont décuplé. Par rapport aux clientes, il y a eu vraiment des habitudes qui ont été prises, on l'a bien senti. Mon prestataire d'email m'a dit, mais c'est sidérant. Il dit, un taux d'adhésion qui est marginal. J'ai rarement vu ce genre de choses. Donc, je crois que effectivement, ça va créer un plus à terme et que ça deviendra véritablement un argument de vente, une méthode de vente à part entière.
Franck, c'est quoi, à ton avis, parce que tu es passé par là il y a quelques semaines, les 2-3 freins qui empêcheraient les boutiques, ces milliers, dizaines de milliers de boutiques, de passer le cap et d'avoir une boutique en ligne?
Le temps. Moi, j'ai la chance d'avoir du personnel. J'ai une quinzaine de collaboratrices, donc ça aide. Il y a moyen de dispatcher le travail, de le segmenter. À partir du moment où, je dirais, sur les dizaines de milliers de boutiques sont composées d'une ou deux personnes, ça devient compliqué pour mettre en place un site efficace et professionnel d'emblée. Je crois que c'est ça. Je crois que c'est le principal frein, c'est le côté chronophage de la chose, surtout, et la bonne gestion du stock. Ça, d'après moi, c'est primordial. Oui.
Franck, on revient encore sur la question de la gestion du stock. On voit bien que tu as opéré une vraie révolution, j'ai envie de dire, digitale, et que maintenant, tu te rapproches de Paris Fashion Shops. Qu'est-ce qui te paraît évident dans ta collaboration avec Paris Fashion Shops? Qu'est-ce que ça va t'apporter?
Déjà, ça va. Moi, comme je disais au préalable, baisser mes commandes initiales me rend beaucoup plus souple en termes de trésorerie et beaucoup plus réactif, j'irais, dans l'achat du bon produit au bon moment. Voilà, c'est ça. Actuellement, rien ne présageait ce qui allait arriver. Il nous faut du plein été. On est rempli de marchandises printemps aussi. Alors ça fait partie de la négociation avec le fournisseur. Mais là, on a une forte demande de robes. Je ne crois pas avoir suffisamment de robes pour boucler la saison. Il va falloir passer par des prestataires qui sont capables de nous offrir de la marchandise fraîche, entre guillemets, et juste à temps, quoi. Je veux dire, Paris Fashion Shop, c'est exactement ça. Mm-hmm. C'est exactement le point.
Est-ce que la bonne solution, c'est d'avoir justement un modèle hybride où tu puisses reposer sur une partie avec un prestataire comme Paris Fashion Shops pour avoir des produits rapidement et de manière classique préparer
les
saisons?
Dans un monde idéal, ça serait pour moi de passer de 50% de chiffre d'affaires stocké à 25% de chiffre d'affaires stocké et 25% de réactivité.
C'est bien, tu as déjà tous tes objectifs.
Les objectifs sont fixés. Par contre, il y aura toujours ce côté incompressible des 25% dans la mesure où il y a des collections, des fabricants de collections qui sont obligés quand même d'avoir leur précommande pour pouvoir assurer une livraison un an après. Et ça fait partie aussi de ces marques qui sont importantes pour nous en termes d'image de marque.
Franck, je trouve que ton virage digital s'est opéré de manière très réfléchie, en plusieurs temps, on l'a bien compris. Et on sent que tu as plein de projets, on sent que tu ne vas pas t'arrêter là. Raconte-nous la suite pour tes boutiques. Et quand je dis boutique, même la boutique en ligne est incluse.
C'est la boutique en ligne qui va nous donner les prochains projets. Je crois que de toute façon, après avoir ceinturé ma clientèle, on va passer à la prospection. Bien évidemment, on va segmenter notre clientèle. On va déjà proposer des promotions exclusives sur le site. On va développer un outlet sur le site. Et après, on va prospecter de la nouvelle clientèle via AdWords, etc. Donc, on va repartir dans un schéma plus classique. On va essayer de dynamiser les ventes en ligne. Comme je me refusais à le faire dans un premier temps, mais je crois que c'est un objectif à moyen terme, oui.
Est-ce que dans tes plus beaux rêves, tu souhaiterais que ta boutique en ligne soit ta première boutique?
Je ne crois pas qu'elle le sera, mais j'aimerais bien qu'elle soit, qu'elle ait un chiffre d'affaires d'une boutique normale, on va dire. Mais je ne crois pas. Je ne crois pas que ça... Enfin, si j'y arrive, on se rappelle, hein, parce que franchement, là, je serais très étonné, mais je ne crois pas, non. Je crois que les boutiques, nous, on n'a pas privilégié le nombre de boutiques, on a privilégié le nombre de mètres carrés dans les boutiques existantes, et on a développé des points qui sont assez importants quand même en nombre de mètres carrés, en chiffre d'affaires, etc. Mais si j'arrive à faire le chiffre d'affaires d'une boutique normale, entre guillemets, je serais déjà très content.
Et c'est particulièrement intéressant, là, ton ton témoignage, c'est que tu n'es pas un digital native. Tu
bah non, disais, moi je suis un quinca, voilà, je ne suis pas un digital native. Digital quinca,
c'est un digital non, boomer
mais,
alors.
Ouais, mais c'est
je un ça, digital boomer.
Je trouve ça super.
Non, c'est remarquable. Ouais, c'est, parce que voilà. En plus, tu as des réflexes de ouais. commerçants, de détaillants qui sont très prononcés et en même temps, tu n'as jamais lâché l'affaire. Et ça, c'est
hyper remarquable. Il y avait une grande frustration. C'était quand même un échec, il fallait pas s'arrêter là. Il fallait absolument qu'on recommence, oui. Non, mais c'était le bon moment.
Et puis avec beaucoup d'humilité, parce que tu le fais quand tu sens que c'est le bon moment, et si tu le fais, tu veux le faire bien, t'es là pour, tu apprends. Et on parle de beaucoup de plans, parce qu'on se compare aux grands, etc. Non, chaque chose en son temps, on le fait de manière organique et pensée.
Voilà, moi je crois qu'il y a de toute façon une digitalisation possible pour tous les commerçants indépendants. Il faut pas commencer à regarder... vente privée, il ne faut pas commencer à regarder Amazon, sinon on va attraper des complexes qui ne servent strictement à rien. On doit regarder notre capacité à faire sur un plan physique et la transposer de manière numérique. Et ça marche, il y a moyen. Et les prestataires existent maintenant.
Franck, pour terminer sur une note un peu plus légère, est-ce que tu peux nous parler de ta rencontre avec Jackie ou un retour particulier sur Paris Fashion Shops?
Ma rencontre avec Jackie
Tu souris, donc t'as une histoire.
Non, j'ai pas d'histoire. J'ai pas d'histoire, j'ai plein d'anecdotes au fond.
Ça fait longtemps que tu connais Jackie ?
Ça fait 18 mois qu'on se connaît. On s'est croisés à la Chambre de commerce de Paris. Et la deuxième phrase, il m'a dit « Est-ce qu'on peut se tutoyer ?» J'ai dit « Mais il n'y a pas de souci, sans problème. » Donc le contact était fait. Mais 18 mois après, ce que je peux en conclure, c'est que ça fait 10 ans que la profession, on est quand même dans le dur. On est quand même dans la crise. Et on entend que des choses plus ou moins négatives sur ce marché. On se demande même parfois si les indépendants existent, alors qu'il y en existe encore 32 000 et que ça représente 20% du marché. Et tout d'un coup, subitement, j'ai rencontré quelqu'un qui était hyper positif pour le commerce indépendant. Et depuis 18 mois, j'ai que des contacts productifs avec lui, j'ai que des contacts dynamiques. Et c'est une boîte à idées, c'est une boîte à... Enfin, et c'est pas la méthode Coué, quoi. Il n'est pas dans l'optimisme BA, il est vraiment dans la production d'idées, dans les plans d'action, etc. Et on a d'ailleurs mis au point pendant le confinement un webinaire tous les samedis matins où on échangeait avec plusieurs indépendants. On échangeait les bons plans, les perspectives, etc. Et en ce sens, je crois que c'est une personnalité rare dans le métier.
Et qui vient de ce milieu, qui comprend les problématiques,
voilà.
Contrairement à un éditeur qui va venir avec ses problématiques et pas celles de...
C'est quelqu'un
de
qui vient du terrain. Ouais.
Ouais, voilà, les solutions viennent du terrain. Mmh. Il comprend tes problèmes et exactement. Les solutions ne sortent pas de nulle part.
Franck, merci beaucoup. Est-ce que tu peux nous donner l'URL de la boutique?
Windownext.com.
Ok, on la mettra dans la note de l'émission. Merci encore. Et
merci
on se dit bon courage et bonne continuation.
Belle continuation, Franck.
Merci, à bientôt.
À bientôt. Jackie, on l'a entendu avec Franck, il faut savoir se poser les bonnes questions au bon moment.
Eh bien, justement, Laetitia, rappelez-vous mon premier site internet en 99, lorsque je l'avais lancé. C'était dans le but de toucher le monde entier, version française, version anglaise. Et au final, 3 mois après le lancement, déception totale. On a mis 6 mois pour développer le site par un prestataire. Et une fois que le site a ouvert, zéro commande durant les 3 mois et durant les 6 mois qui ont suivi. Chacun son métier et je pense qu'il faut laisser faire les choses aux spécialistes. Et le digital est un métier à part.
Est-ce que toi qui es en contact justement avec des boutiques tous les jours, tu échanges avec eux, tu te rends compte qu'ils ont dans la tête « on veut se lancer plus sur le digital, on veut pouvoir vendre en ligne, mais on n'y arrive pas parce qu'on n'a pas les ressources, on n'a pas les compétences, on n'a pas la maturité, on n'a pas les outils, etc. »
En fait, le digital fait rêver tout le monde, je dirais. Tous les acteurs qui sont dans le physique et qu'ils soient détaillants, qu'ils soient marques, grossistes, ils ont envie d'être sur le digital. Par contre, ils trouvent rarement la bonne agence web capable de leur monter leur site internet et capable aussi surtout de les suivre dans le développement, de les accompagner. Ou alors, ça coûte très, très cher. Et le ROI, il n'est jamais, jamais au rendez-vous, malheureusement. Et lorsqu'on a un projet de site internet, on se dit « Ok, on va lancer un site internet. » Au final, c'est toujours une vitrine qui va apparaître.
dans l'histoire de Franck, il nous expliquait ça, et c'était il y a 10-12 ans qu'il n'arrivait pas à trouver le bon prestataire. Il semblait vouloir dire qu'aujourd'hui, la situation, elle est meilleure. Il semblait être optimiste. Est-ce que toi, tu partages ce point de vue de dire que maintenant, il y a des acteurs qui peuvent s'adapter et c'est plus simple de se lancer, ou non, c'est toujours une galère si tu n'as pas ce qu'il faut, les bonnes ressources?
On peut quasiment créer son propre site internet pour 0 euro. Par contre, pour faire du business, on doit savoir que on ne devient pas la meilleure boulangerie du quartier avec un investissement zéro. Si tu veux avoir des résultats, il va falloir que tu investisses à la hauteur des résultats que tu attends. Il n'y a pas d'effort, il n'y a pas d'investissement, il n'y a pas de résultat. Donc dans le digital, c'est clairement ça. Il faut investir beaucoup avant pour pouvoir obtenir des résultats. Et pour moi, c'est encore une fois un métier à part. Et c'est le métier de Paris Fashion Shops aujourd'hui qui intervient justement pour aider les commerçants indépendants qui galéraient avant et qui galèrent encore aujourd'hui. Et ce que je peux leur dire aujourd'hui, c'est que le digital qui était pour vous une menace auparavant peut devenir une force aujourd'hui et dans le futur à travers Paris Fashion Shops.
Jackie, on l'a vu avec Franck ou même avec toi, ta propre histoire personnelle, les démarrages ont été compliqués, ça s'est soldé par des échecs. Aujourd'hui, avec le recul, l'expérience, qu'est-ce que toi tu mets en place pour faire en sorte que tes commerçants réussissent?
La baguette magique pour qu'ils puissent se concentrer à leur cœur de métier, ce dont pourquoi ils ont ouvert leur business, leur boutique. Un, la plupart du temps, les commerçants qui sont dans la mode aujourd'hui ouvrent leur boutique par passion du métier, parce qu'ils aiment la mode. Et deux, parce que c'est quelque chose qui va aussi leur permettre de gagner leur vie. Développer une petite prochaine de magasins, par exemple, quand on ouvre un magasin, c'est pour dire « Ok, bah, je vais ouvrir une première boutique. Potentiellement, si la boutique marche bien, je vais peut-être ouvrir une deuxième boutique, une troisième, une quatrième, voire plus. » Le monde change. Et les détaillants, malheureusement, n'ont pas pu changer aussi rapidement que les mastodontes aujourd'hui qu'on connaît très bien. Je ne vais pas citer de nom, mais ce sont des magasins qui sont dans tous les quartiers, dans tous les centres-villes, et qui prennent justement la clientèle qu'ils avaient, ces détaillants. Et je vois les commandes diminuer, moi-même dans ma propre boutique, quand j'étais leur fournisseur, d'une saison à une autre, tu baisses de 10%, tu rebaisses de 10%. Jusqu'à quand tu peux durer comme ça? Et je me dis, ok, si on ne fait rien et on reste passif et on reste juste spectateur, ça va pas aller loin. C'est quoi nos moyens? Nos moyens, c'est mutualiser nos forces. C'est justement d'apporter ce que aujourd'hui les mastodontes aujourd'hui ont comme force de frappe, la digitalisation. Nous, de permettre aux petits de devenir acteurs et non spectateurs. Dans le métier de wholesale, au fait, lorsque une boutique détaillante rentre dans un magasin de gros, il ne voit jamais, c'est pas comme chez les détaillants, il ne voit jamais les prix affichés. Finalement, les prix sont à la tête des clients. Est-ce que vous savez si vous avez payé le bon prix ou pas? Avec Paris Fashion Shops, nous garantissons les prix au plus bas. Au-delà de tout ça, il y a aussi les ventes flash que certains fournisseurs ont besoin peut-être de déstocker, faire de la place. Et là, ils profitent justement du digital parce qu'on a plus de 100 000 clients boutiques inscrits sur le site internet, sur Paris Fashion Shops.
Parfait.
Merci Jackie. On a vu dans l'exemple de Franck qu'au-delà des outils, il avait une équipe pour l'aider. Et on va se poser la question, si ça te va bien la prochaine fois, comment est-ce qu'on peut faire quand on est une toute petite équipe, quand on n'a qu'une seule personne, on gère une boutique, est-ce que c'est possible de digitaliser? Si oui, comment? Ça vous va Laetitia et Jackie?
Parfait.
On se dit à la prochaine.
À la prochaine.
Super.
Salut.
Ciao.